Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors nous n'avons pas vu le temps passer depuis mars, seulement voilà pour cette saison, c'est déjà le dernier numéro d'Au cœur de l'Histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Oh, je me console en pensant à toutes les belles émissions qui sont déjà en préparation pour la rentrée. Et puis d'ici là, pendant tout l'été, eh bien vous pourrez réentendre les meilleurs moments de cette saison 2011.
Alors pour ce jour un petit peu particulier, vous avez choisi un sujet...
Un petit peu particulier.
En toute logique.
Et qui me touche beaucoup, vous le savez. Il s'agit du véritable site du siège et de la bataille d'Alésia, qui se situe non pas en Bourgogne, comme on essaie tellement de vous le faire croire, mais bien dans le Jura. Le 15 juillet prochain, notez la date, je ferai là-bas à Champagnole une conférence sur la question. Et en avant-première, eh bien, j'ai invité cet après-midi ma complice Danielle Porte à me rejoindre. Nous allons vous parler de Vercingétorix et de César et puis de tous les autres.
C'est ce que j'allais dire. Pas seulement, vous allez aussi nous parler de la façon dont les Gaulois vivaient.
Oui, et nous allons le faire en compagnie d'un archéologue et docteur en histoire, David Louillot, qui vient d'écrire un livre sur le sujet. Bref, avec tous ces archéologues, inutile de vous dire qu'ils flottent déjà dans ce studio comme un air de vacances.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Je vous emmène à Constantine, en Algérie, au tout début des années 1960. Ce qu'on appelle à l'époque les événements, et que l'histoire nommera la guerre d'Algérie, fait rage. Sur place, le correspondant de l'Institut pour l'archéologie, qui est conservateur des antiquités, se nomme André Berthier. André Berthier, c'est un chartiste de la promotion 1931. Il est arrivé en Algérie dans la foulée, et notamment parce qu'il a fait énormément de choses, bien entendu, pendant toute la décennie 30 et pendant la décennie 40, il a fouillé le site de Tidis. Il est un de ces savants discrets, fins, plein d'un humour en retenue, comme le début du XXe siècle en a tant produit. André Berthier dispose de vastes loisirs du fait de cette guerre d'Algérie, et comme cet archéologue est aussi un amoureux des textes anciens, eh bien il en est venu, par un concours de circonstances, à s'intéresser à la déjà fameuse, est-ce que j'oserais dire trop fameuse, querelle sur la localisation d'Alésia. C'est un véritable serpent de mer, cette histoire, à l'époque, déjà. Or, parce qu'il est soucieux de dépasser les conflits stériles, André Berthier émet l'idée de procéder d'une manière nouvelle. Tout d'abord, il prend le temps d'analyser, mais quand je dis d'analyser, c'est avec un regard neuf. Il prend le temps de reprendre les phrases mêmes des commentaires de Jules César sur la guerre des Gaules. Car si tout le monde vante le style, et quel style de Jules César, si l'on entend également sur la portée politique de ses écrits, si l'on entend tous les spécialistes, tous les professeurs tresser des louanges à Jules César, on en est venu en revanche à minimiser l'intérêt documentaire que peuvent présenter ces textes. Eh bien André Berthier, et je pense que c'est son premier mérite, André Berthier va établir une distinction très nette entre les faits eux-mêmes, des faits qui ont été enregistrés par César avec une précision militaire, et puis l'interprétation que César parfois peut donner de ces faits, une interprétation qui, elle, évidemment, peut être discutée. Le philosophe a compris que les commentaires de la guerre des Gaules ont, dans l'esprit de leur auteur, un but qui prime sur tous les autres, et c'est présenter à ses successeurs militaires, à présenter aux généraux du futur, une synthèse des campagnes césariennes. Tirer de cette expérience un corpus de données opératoires. Ça, c'est très important. C'est ce qui explique l'incroyable précision de Jules César et c'est ce qui va faire la fiabilité du texte quand on va le confronter plus tard au terrain. L'intuition d'André Berthier aura été de l'admettre hors de toute considération politique. On doit, pense-t-il, on doit pouvoir prendre César au mot, à la lettre, et voir d'abord dans ses commentaires une réserve d'indices. Et voilà donc notre homme qui reprend terme à terme le récit de César, qui le dépouille de ses interprétations, qui, qui en exprime la quintessence. Ligne après ligne, il recueille les indications géographiques, ou si vous préférez topographiques, qui se trouvent éparses dans le texte du proconsul. Il les traduit dans un croquis qui est chaque jour plus précis. Il en vient à dessiner une sorte de plan, si vous voulez, un plan très détaillé, où, comme il devait le baptiser lui-même avec cet humour dont je vous ai parlé, il réalise un portrait robot du site d'Alésia. Attention, à cette époque-là, on est toujours à Constantine, en Algérie. Mais là-bas, l'archéologue se fait communiquer les cartes d'état-major de la France de l'Est. Il les met bout à bout, bien sûr, il les assemble et ça fait une sorte de terrain de jeu qui fait presque 5 mètres de côté. Et là-dessus, dans cet espace, André Berthier va repérer plus de 200 auteurs susceptibles d'accueillir un éventuel oppidum. Et là, avec patience, avec minutie, c'est un véritable travail de fourmi, comme souvent la recherche, il va comparer l'une après l'autre les différentes hauteurs à son portrait robot. Alors, d'abord, c'est un peu en vain. Il manque toujours quelque chose, vous savez, ici il manque une rivière, là il manque les hauts talus, ce qu'on va appeler les préruptas, etc. Jusqu'au moment où, sidéré, notre détective archéologue met le doigt sur un promontoire, sur des collines, sur une plaine, sur des cours d'eau qui correspondent trait pour trait à la description de César. Et là, André Berthier se dit « mais c'est incroyable !» Il superpose son portrait robot à la carte d'état-major et la coïncidence est parfaite. Vous imaginez la joie du chercheur, évidemment, mais aussi sa surprise. Parce que ce lieu qui a été identifié, vous l'avez bien compris, par déduction et par déduction seulement, ce lieu va se révéler bien plus méridional, bien plus oriental aussi, et surtout beaucoup plus montagneux qu'on aurait pu l'imaginer. Étonnement, il se situe dans le Haut-Jura, au sud de Champagnole, précisément entre les villages de Siam et Chaux-des-Crotenay. On est là, à quelques 140 kilomètres à vol d'oiseau, au sud-est du Mont Auxois, le Mont Auxois qui est officiellement le site d'Alésia, celui qu'on a reconnu depuis le Second Empire et sur l'authenticité duquel à peu près tous les savants paraissent d'accord. André Berthier n'a plus le choix. Dès les vacances de Pâques suivantes, donc on est là au printemps 1962, il quitte un moment l'Algérie, il revient en métropole et sans perdre un instant, il se rend sur place, là-bas dans le Jura. Et de fait, au lieu fixé, coïncide. Une surface plane, tout en longueur, c'est le texte de César que je vous cite là, qui fait 4,5 km entre l'égide Siam et le village de Bourg-de-Sirault. 4,5 km, c'est-à-dire 3000 pas romains. Une plaine s'étend effectivement en avant d'un coteau, lieu très élevé puisqu'il domine la plaine de plus de 250 mètres. En avant du coteau, lieu très élevé, ce sont là encore les termes mêmes de César. Un promontoire détaché forme une citadelle naturelle au-dessus du vide, c'est cet arx dont parle César et d'où rien n'échappera au coup d'œil affûté de Vercingétorix. Deux vraies rivières, je dis des rivières parce qu'en Bourgogne on aurait plutôt affaire à des ruisseaux, la Seine et la Lemme, sont bien là, présentes à ses pieds et elles forment, comme dans le texte de César, des gorges qui littéralement baignent les racines de la colline sur deux des côtés. Les recoupements avec la description de Jules César sont en fait innombrables. Et l'on aurait du mal pour décrire le site qu'André Berthier a maintenant sous les yeux à trouver des termes plus appropriés que ceux choisis en son temps par le proconsul. Est-ce qu'il n'est pas émouvant, du reste, de constater qu'après plus de 2000 ans, tout est demeuré en place et que, hormis sans doute des différences de boisement notamment, rien ici n'a vraiment changé. César affirmait que la ville proprement dite se trouvait au sommet d'une colline. Eh bien, de fait, à Chaux-des-Crotenay subsiste au centre du plateau, le plateau c'est un vaste triangle qui fait environ 1000 hectares, subsistent les vestiges d'une enceinte urbaine archaïque. Cette belle ceinture, qui est longue de 6 km, devait enserrer une agglomération de quelques 160 hectares. Elle est réduite aujourd'hui pour l'essentiel à ses assises inférieures et elle se constitue de blocs absolument énormes qui sont gages d'une très grande ancienneté. Est-ce qu'il faut en conclure qu'Alésia était déjà très vieille à l'époque de Vercingétorix ? C'est plus que probable et ça confirme la fameuse appréciation de Diodore de Sicile, l'historien antique qui qualifiait la ville des Mandubiens, la ville d'Alésia, de foyer religieux et métropole de toute la Celtique. Il y a là des centaines d'édifices, des édifices imposants mais sommaires et qui témoignent aujourd'hui dans les bois de Cornu derrière le vieux mur, qui témoignent tous ces étranges vestiges de pierre d'une époque qui est totalement révolue. Nous ne savons même plus comment les interpréter aujourd'hui. Eh bien désormais, et pendant 4 décennies, André Berthier va revenir fouiller les lieux en compagnie de toute une équipe de spécialistes, tous volontaires, tous enthousiastes devant les découvertes inouïes qu'ils effectuent là chaque semaine.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Précisément au cœur de l'histoire du véritable site du siège et de la bataille d'Alésia, Franck.
Je vous avoue que depuis quelques années maintenant, je m'intéresse évidemment de très près à ce site de Siam et Chaux-des-Crotenay dans le Jura. Et du reste, vous l'avez dit tout à l'heure, Julia, le 15 juillet, j'en profite pour le répéter parce qu'on ne dit jamais assez ces choses-là. Le 15 juillet prochain, je ferai donc une conférence à Champagnole même, donc tout près du fameux site, dans un lieu qui s'appelle l'Oppidum. C'est une salle, une sorte de salle des fêtes où nous nous réunirons et où j'essaierai de revenir très en détail sur cette affaire. Et à mesure que je m'intéresse à ce sujet, j'ai un regret énorme, c'est de n'avoir pas été là dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80 et même 90, aux côtés d'André Berthier, pour l'aider à défricher, à creuser, à mettre à jour, ces extraordinaires vestiges qui sont à la fois des vestiges gaulois, mais aussi des vestiges romains, vestiges du siège et de la célèbre bataille d'Alésia. Eh bien, parmi ceux qui étaient là, parmi ceux qui ont fait les découvertes et qui ont participé tout à fait aux côtés d'André Berthier à cette magnifique aventure, figurait Daniel Porte, qui est enseignant-chercheur à la Sorbonne, latiniste très distingué de l'Institut d'études latines, et Daniel Porte, ma vieille complice Daniel Porte, ça fait maintenant des mois et des mois que nous travaillons coude à coude, est avec nous dans ce studio. Bonjour Daniel.
Bonjour Franck.
J'allais dire merci d'être venu, mais vous êtes venu sans que je vous force totalement.
Oh, je ne pense pas, non.
Vous avez bien connu André Berthier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire comme ça en quelques mots ? Vous ne l'avez jamais fait d'ailleurs, je ne vous ai jamais vu en parler en public. Ce sera peut-être la première fois à ma connaissance.
Ce sera peut-être la première fois, oui. C'était un personnage qu'on ne peut justement pas décrire. Parce qu'il avait tout. Il avait la science, une science prodigieuse. Il avait la simplicité des grands esprits, qui se mettait avec beaucoup d'urbanité, avec beaucoup de courtoisie, à la portée des gens qui, justement, ne savaient pas ou ne savaient que peu ce dont il parlait. Donc, on avait toujours l'impression d'être en phase avec les textes, même si on ne connaissait pas les textes. Et beaucoup de gens sont venus qui découvraient. Et il les aidait à découvrir avec justement cette sorte de politesse qui était l'apanage des grands esprits. Jamais une fois, en parlant avec André, on était dépassé ou on se sentait inférieur. Il avait l'art de se mettre à la portée des gens et de les faire pénétrer dans son univers.
Est-ce qu'il était lui-même surpris par l'ampleur de tout ce qui a été découvert dans ce coin assez perdu du Jura ?
Oh, complètement même. Nous avons eu des moments où au Camp Nord en particulier, en découvrant les vestiges, lui-même disait mais ça n'est pas vrai, mais ça n'est pas vrai. Si, c'était vrai. Et nous avons eu des moments aussi où, en découvrant les grands murs qui ne sont pas cyclopéens, mais qui sont trapézoïdaux, horizontaux, mais qui sont quand même très anciens.
Et très monumentaux.
Et très monumentaux surtout. Lui-même était étonné de découvrir dans un coin aussi perdu que le Jura des monuments aussi considérables qui auraient été dignes de la découverte, si on peut dire, plus officielle, et que les officiels ont toujours ignoré.
Nous allons revenir dans un instant sur toutes les difficultés que les différentes administrations ont su semer sur le chemin d'André Berthier et de ceux qui travaillaient dans ce coin de Jura. Ce qu'il faudrait peut-être commencer par serrer, ce sont les différents types de campagnes. À quoi s'est-il intéressé d'abord ? Aux vestiges circonstanciés, essentiellement romains, du siège et de la bataille, donc des vestiges militaires extrêmement fugaces qui appartiennent à l'histoire et à l'histoire romaine. Ou bien est-ce qu'il s'est intéressé plutôt à l'immense quantité de vestiges celtiques témoins d'une très vieille implantation gauloise en cet endroit ?
D'abord le militaire, pour l'excellente raison qu'il avait des autorisations de sondage données par André Malraux en particulier, ou par Duhamel ou par Michelet, enfin les ministres du moment.
Les grands ministres, qui ont été des ministres de la culture dignes de ce nom.
Qui avaient quelque chose dans la tête et qui avaient l'art d'accorder leur pouvoir à la recherche, à la recherche gratuite, mais à la recherche positive.
Alors donc, il commence par ses...
Par le militaire, Et là, on a eu la surprise et l'intérêt de découvrir précisément des bases de tours avec l'espace entre les bases de tours de 24 mètres, exactement ce que dit César, de découvrir les lilias, c'est-à-dire les pieux aiguisés, à l'endroit où ils devaient se trouver, de découvrir des murs, mais alors des quantités astronomiques de murs, avec les tours en terre, avec les poternes, enfin tout ce qu'il fallait pour constituer les deux camps du camp nord.
C'est juste un extrait de la BO d'Astérix et Obélix et la musique de Jean-Jacques Goldman. C'est un extrait donc de cette bande originale du film. Alors, pour les auditeurs qui viendraient à nous prendre en route, si je puis dire, j'ai rouvert ce dossier qui m'est si cher du véritable site d'Alésia. Et je rappelle à nos auditeurs que le site officiel, le site qui est admis généralement, se trouve en Bourgogne, au Mont-Auxois, à Alise-Sainte-Reine exactement. C'est un décret impérial de Napoléon III qui l'a fixé là. Et depuis, l'université, dans son ensemble, même si certaines voix discordantes ont pu bien sûr se faire entendre, l'université admet que Alésia se trouve bien en Bourgogne. Or, dans les années 60, au tout début des années 60, ça fait donc 50 ans là en ce moment même, André Berthier, qui est un chercheur qui au départ travaillait donc en Algérie, découvre un site qui se trouve dans le Jura. Ce site, il l'a découvert par une méthode scientifique, il n'avait aucun a priori, et il ignorait même jusqu'à son existence, je tiens à le préciser. Il découvre un site qui correspond trait pour trait avec la description de César. Alors, Daniel Porte, nous n'allons pas entrer dans la critique du site bourguignon. Ce qu'on peut dire simplement en quelques mots, c'est qu'à Alise-Sainte-Reine, rien ou quasiment, ou en tout cas pas grand-chose, ne correspond à la description que César donne du site dans les commentaires de la guerre des Gaules.
Absolument. Nous avons sur le site officiel des flumina, c'est-à-dire ce devraient être des cours d'eau ou des rivières qui devraient lécher...
En fait, ce sont des ruisseaux.
Ce sont des ruisseaux qui devraient lécher le pied de la colline, qui sont à 300 mètres. Nous avons une plaine qui est en largeur, elle devrait être en longueur, serrée entre les collines. Les collines sont à 2,5 km tout de même. Nous avons également un ersatz de ville, Napoléon appelait ça un monticule ou une taupinière, qui devrait être enserré par les lignes. Or, les lignes laissent toute la place aux Gaulois pour, évidemment, descendre, s'abreuver aux deux ruisseaux, alors que quand on assiège une ville, en principe, on l'assiège au plus près de ses murailles. Il y a là, dans ce qu'on a découvert sur le plan de l'archéologie, des non-sens. Il y a des camps qui sont à l'extérieur des deux lignes de circonvallation et de contrevallation qui sont censées les protéger. Il y a des fossés, un grand fossé qui est à 700 mètres des lignes de contrevallation, alors qu'il devrait être à 120.
Bref, un très grand nombre de discordances entre ce qu'on constate sur le terrain et ce qu'on lit dans le texte de César. Alors que, lorsqu'on est dans le Jura, à Siam, Chaudet-Crotenay, pour aller très vite, et parce qu'il me reste 15 secondes avant la publicité, on peut dire que tout concorde.
Absolument tout, y compris dans le plus grand détail, et d'une manière qui s'impose à la vue, et qui s'impose à l'esprit, comme on n'aurait presque jamais osé l'espérer.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous partons sur les traces des Gaulois avec Franck et avec ses invités.
David Louillot vient de nous rejoindre dans ce studio. Il est l'auteur aux éditions Acropole d'un ouvrage qui s'appelle « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Gaulois sans jamais oser le demander à Astérix ». Bonjour David Louillot.
Bonjour.
Alors je ne veux pas vous embringuer dans cette affaire de querelle d'Alésia, mais je vous demanderai dans un petit instant, si vous voulez, ce que vous pensez quand même de l'un et de l'autre site, bien entendu. Je reviens avec Daniel Porte pour évoquer les mésaventures d'André Berthier. Parce que ce monsieur a fait une découverte merveilleuse. Il devait être convaincu au début des années 60 qu'il allait révolutionner une page importante de l'histoire antique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a été mis plus ou moins au banc de la communauté des scientifiques, des archéologues, des historiens, etc.
On lui a même donné le choix entre l'Institut et Alésia. Il a pris Alésia, bien entendu.
C'est-à-dire que s'il continuait à défendre l'idée qu'Alésia se trouvait dans le Jura, il n'entrait pas à l'Institut.
Exactement, il n'y est d'ailleurs jamais entré. Il était correspondant de l'Institut, c'est tout ce qu'on lui a concédé. On a demandé des années durant des visites d'archéologues patentés. On a eu la visite, je peux le nommer ?
Non, mais pourquoi pas, oui.
De Monsieur Lerat, qui a d'ailleurs laissé échapper son poste à cette occasion, et qui est venu une heure sur le site, avant de déclarer que le site était archéologiquement nul, et avant de déclarer...
Là, on est dans les années 70.
Oui. Avant de déclarer que la porte nord, c'est-à-dire une porte construite avec des parements appareillés, était une moraine.
Une moraine, il faut expliquer à nos auditeurs.
Oui, c'est un résidu de glacier théoriquement est le bout d'un glacier qui coule et donc est dans le sens de la pente.
Une construction humaine est identifiée par quelqu'un dont c'est le métier comme une simple un vestige naturel. En fait.
Absolument. Et nous avons aussi l'état d'épierrement. Nous avons les limites de forêt. Nous avons les limites de parcelles.
Oui. C'est-à-dire que les sites, notamment celtiques ou proto-celtiques, c'est-à-dire que tous les ensembles cultuels, ils sont très nombreux, ils sont des centaines sur cet emplacement, ont été identifiés par les archéologues officiels comme des tas de pierres, comme des limites de parcelles agricoles, etc. Cette espèce d'acharnement, si je puis dire, des administrations contre les recherches d'André Berthier, à quoi l'attribuez-vous, vous, Daniel Porte ?
Beaucoup de circonstances, beaucoup d'intérêts. Des intérêts d'abord de carrière, des intérêts personnels, des intérêts de formation de disciples. Quand on a passé sa vie à démontrer qu'Alésia, c'était à l'île Sainte-Reine, on est difficilement amené à se renier soi-même pour dire « je vous ai dit des sottises » pendant 20 ans. Par conséquent, il y a cette sorte, je dirais, d'omerta, qui consiste à ne jamais vouloir contredire les grands qui se sont exprimés sur la question, Carcopino en particulier. Or, Carcopino a reçu M. Berthier chez lui.
Le grand historien Carcopino.
Oui, tout de même. Et il lui a dit « je ne vous donne pas mon approbation, mais je vous donne mieux, vous m'avez fait hésiter ».
C'est une jolie formule.
Une jolie formule.
Il faut dire que Jérôme Carcopino était l'inventeur, lui, d'une espèce de trouvaille incroyable, puisque César dit que les attaques dont il est l'objet se situent chez les Séquanes et qu'en fait le site bourguignon se trouve chez les Éduins. Eh bien, Carcopino était allé jusqu'à inventer une colonie de Séquanes de l'Ouest. Je ferme cette parenthèse. Ce qu'il faut dire, Daniel Porte, et ça, je pense que c'est très important, c'est qu'après la mort d'André Berthier, André Berthier est mort en 2000.
Oui.
Après sa mort, les travaux ont continué sur place. Et que vous avez fait très récemment, j'en ai été très modestement le témoin pour la période la plus récente, vous avez fait des découvertes majeures grâce notamment à des technologies de pointe.
Nous avons fini avec l'exploitation du LIDAR, qui est faite actuellement par François Chambon et Renato Salieri du laboratoire Maparia de Lyon, qui ont réussi à reconstituer tout le camp nord avec des technologies non intrusives, c'est-à-dire sans gratter.
Les camps romains qui se trouvaient dans le nord du dispositif de César, en fait.
Exactement. Ensuite, nous sommes passés à la géomorphologie, nous sommes en train de travailler avec des radars, nous allons continuer avec des reconstitutions en 3D. Bref, nous avons réussi à intéresser un certain nombre de scientifiques qui viennent bénévolement pour le géoradar. Ils sont venus de Bordeaux pour les uns et de Paris pour les autres, uniquement pour voir ce qu'on pouvait faire sur ce site quand même exceptionnel. Et donc, on a réussi à, sans d'ailleurs le vouloir, à éveiller l'intérêt de vraiment des scientifiques de pointe. Et leurs apports sont véritablement stupéfiants, même pour nous.
Oui, c'est vrai. C'est chaque jour une belle surprise. Oui. Est-ce qu'on peut voir des photos de ces découvertes sur votre site internet, par exemple?
Nous n'en avons pas encore mis, puisque justement nous attendions d'avoir des certitudes, mais ce va être fait incessamment.
Si on veut y aller sur ce site, vous pouvez le citer, c'est le moment ou jamais.
alesia.jura.free.fr.
alesia.jura.free.fr. David Louillot, est-ce que vous vous êtes rendu, vous, sur place? Vous connaissez ce site jurassien qui vient semer le trouble dans la communauté historique?
Je connais ce site jurassien. C'est vrai qu'en tant que spécialiste des périodes proto-historiques gauloises et celtes, j'ai planché sur cette question d'Alésia il y a 2 ans. Et je connais les 2 sites, que ce soit Alice-Saint-Reine et Chaudet-Crotenay. Concernant Chaudet-Crotenay, je dois bien reconnaître qu'à l'instar de Jérôme Carcopino, moi aussi j'ai hésité, même beaucoup hésité. Donc c'est vrai que sans rentrer dans la polémique d'Alésia, pour ma part, il y a...
Vous ne voulez pas vous mouiller, si je comprends bien.
Oui, oui, quand même un peu, ouais. Mais pour ma part, j'ai vu un site. Il y a un site. Il y a un site à Chaudet-Crotenay. Moi, mon inquiétude quand je vois certains murs, parce que pour moi, il y a des murs, même certains murs de fortifications.
Je crois que là, on peut dire objectivement qu'il y a des murs. Pour
voilà.
Vous, pour quiconque. Hein. À moins vraiment, après, d'aller faire preuve d'une totale mauvaise foi. Mais il y a bien des murs.
Il y a bien des murs. Donc c'est ce que je confirme. Et c'est vrai qu'il faudrait quand même ne pas tarder à étudier ce site.
Mais oui, parce que tout ça s'abîme.
Voilà,
c'est ça.
C'est le problème. C'est qu'on, d'année en année, on risque de le voir se détériorer. Et il se peut que de nombreux vestiges nous manquent quand on pourra l'étudier.
Ah oui, c'est ça. Et chaque jour, on voit d'ailleurs des dégradations. Vous en avez encore constaté là, très récemment, Daniel Porte.
Oui, la coupole de l'Aigle, qui était un monument auquel je tenais particulièrement puisque je l'avais découvert, la coupole s'est effondrée. Et donc, on a un monument à niche qui nous manque, alors que c'était un des fleurons du site.
Mmh. Combien y a-t-il de sites cultuels sur l'ensemble du périmètre, environ?
Une bonne centaine, sinon davantage, répertoriés. Et nous sommes toujours à même d'en découvrir d'autres.
Bon. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, juste après le flash de 14h, nous allons respecter le titre de l'émission, si je puis dire. J'avais intitulé ça « Sur les traces des Gaulois ». On va partir à la recherche de cette civilisation qui nous paraît très proche, puisqu'après tout, on nous apprend depuis des décennies que ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Et puis, en même temps, on va se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus exotiques et beaucoup plus inattendus que ce que vous auriez pu penser. Nous nous retrouvons donc juste après le flash de 14h.
Et bien tout de suite, Franck. Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Sur les traces des Gaulois avec Franck Ferrand et ses deux invités aujourd'hui, Daniel Porte et David Louillot.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Gaulois, sans jamais oser le demander à Astérix, c'est le titre de l'ouvrage que David Louillot, qui est docteur en histoire ancienne et archéologue, chercheur associé aux universités de Tours et de Thessalie en Grèce, c'est donc le titre, David Louillot, que vous avez donné à cet ouvrage, qui est extrêmement accessible et qui nous permet d'entrer non seulement dans le quotidien des Gaulois, mais dans celui des Romains. Et vous le faites d'une façon amusante, puisque c'est à travers les références bien connues, partagées, j'allais dire, par quasiment tous les Français et par bien des gens au-delà de la France du reste, référence à Astérix, à Obélix, à Panoramix, à Ordre Alphabétique, à Bras Raccourcix, etc. Bref, le petit village des irréductibles gaulois. Vous nous montrez qu'en fait, les vrais Gaulois ne ressemblaient pas tellement à ceux de Goscinny et Uderzo.
Oui et non. C'est vrai que, à plein de titres, les vrais Gaulois ne ressemblaient pas complètement à Goscinny et Uderzo. C'est vrai que quand on reprend certains thèmes comme les tailleurs de menhirs et les chefs portés sur un pavois, effectivement, on est loin de l'image des Gaulois.
Oui, mais en même temps, c'est fondamental parce que ce sont les grandes images fondatrices de la bande dessinée. Alors, pour y revenir en un mot, on voit Obélix tailler des menhirs et les livrer. Les menhirs n'ont rien de gaulois, on est bien d'accord.
Non.
Ils existaient bien avant.
Bien avant, les menhirs ont été érigés plutôt entre le 5e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ.
Ils appartiennent au néolithique.
Voilà, donc on est plus dans ces périodes plutôt anciennes. Le lien avec les Gaulois est jusqu'à preuve de contraire pas prouvé.
Mais on peut quand même plus qu'imaginer que les Gaulois ont réutilisé tous ces sites religieux proto-historiques.
C'est probable. On ne peut pas exclure l'hypothèse qu'effectivement, ils avaient des menhirs sous leurs yeux, ils ont pu les utiliser. Ça ne pose pas de problème. Enfin, moi, ça ne m'en pose pas.
Daniel Porte, si l'on admet que ce site qui nous est cher était bien l'Alésia des Mandubiens, le terme de Mandubiens, les Mandubiens, c'est le peuple censé habiter cette ville sainte. C'est un apax, hein, c'est-à-dire que c'est un terme qui n'intervient qu'une fois dans la littérature antique, sous la plume, enfin sous le stylet de César ou sous sa dictée. Si c'est bien l'Alésia que nous avons dans le Jura, c'est situé dans un endroit qui est bourré de ces vestiges proto-historiques et qui appartiennent directement au néolithique.
Oh oui! Nous avons des statues menhirs, même anthropomorphes. Nous avons surtout des monuments cultuels constitués d'une niche en rocher, disposée avec une coupole, avec à l'intérieur un fétiche en pierre qui ressemble souvent à une forme animale. Et au-dessous, nous avons surtout la grande langue en pierre qui est prise sous le monument, absolument pas rapportée devant.
Avec une orientation très spécifique.
Avec une orientation naturellement, comme d'habitude, vers l'est, ce qui était la norme pour les monuments celtiques, le soleil levant bien sûr. Et cette pierre en forme de langue.
Quand vous dites monument celtique, là on serait plutôt dans des monuments pré-celtiques.
Oui, on dit celtiques parce qu'ils sont chez nous, si vous voulez.
C'est ça.
Mais bien sûr, ils sont beaucoup plus anciens. Et cette langue de pierre fait largement son mètre de longueur.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette métropole religieuse dont parle Diodore de Sicile était une métropole extraordinairement ancienne qui aurait été réutilisée par les Celtes, par les Gaulois, mais à une époque beaucoup plus proche de nous, puisque c'est l'époque de la conquête romaine?
Bien entendu, puisque nous avons différents strates, si l'on peut dire, ou disons différentes couches de population qui sont justement distinguées par la construction des menhirs, soit de la construction brute avec des pierres énormes, soit avec de la construction un peu plus légère avec des murs en pierre sèche. Mais nous avons différents stades précisément et on ne peut pas les attribuer à telle ou telle époque, enfin du moins nous ne sommes pas encore en mesure de les attribuer. Mais visiblement, ce sont des constructions différentes qui se sont substituées les unes aux autres.
Et qui se mélangent et qui s'interpénètrent, enfin, etc. Ce qui est certain, c'est que l'époque du mégalithisme est très très antérieure à l'époque celtique. Quand on dit époque celtique, c'est 6e jusqu'à l'an 0, enfin jusqu'à la conquête,
jusqu'à 50 avant Jésus-Christ. Disons qu'on va parler surtout des âges du fer, du premier âge du fer et du second âge du fer. Donc très précisément, c'est entre 800 et 50 avant Jésus-Christ. Mais c'est vrai qu'on a tendance à parler des Celtes, surtout à partir du 6e, 5e siècle, au moment où les Grecs commencent à parler d'eux. D'ailleurs.
Voilà, c'est ça, bien sûr. Alors, vous nous dites, David Louillot, c'est vous-même qui avez employé qui avez pris cette image, que Abra Racourcix n'avait aucune chance d'être porté en triomphe sur un pavois, comme dans la bande dessinée.
Très peu de chance. Très peu de chance.
C'est une coutume franque, ça, plutôt.
Ce serait plutôt une coutume franque. Hein. C'est une coutume principalement attestée au 5e siècle de notre ère, ce coup-ci.
Donc on pioche une fois très avant, une fois pas mal après.
Voilà. ça ne veut pas dire qu'elle existe. C'était pas avant, mais pas chez les Gaulois. Il s'avérait, parce qu'il y a des exemples isolés comme celui de Julien d'Aposta au 4e siècle, où effectivement celui-ci s'est fait porter sur un pavois. Mais c'est un exemple vraiment isolé et il a pu emprunter, c'est ce que disent les textes, aux Germains, donc on va dire aux ancêtres des Francs. Donc cette pratique, en tout cas en France, n'est attestée qu'à partir de Clovis.
Merci pour ce clin d'œil à l'histoire parisienne. Je suis très sensible. Panoramix, le druide, on le voit avec son chaudron. Alors certes, les druides ne fabriquaient pas de potions magiques, mais est-ce qu'ils faisaient bien, est-ce qu'ils avaient bien des réunions annuelles dans la forêt des Carnutes, est-ce qu'ils coupaient le gui avec une serpe d'or? S'il vous plaît, ne nous dites pas non, parce que sinon on va être un peu désespéré.
Alors, selon Pline l'Ancien, effectivement, les druides coupaient le gui avec une serpe d'or et étaient habillés d'une toge blanche.
Bon, ça faisait, voilà, ouf.
Toutefois, c'est l'une des rares sources. C'est vrai que c'est la source la plus parlante pour les druides notamment. C'est vrai que maintenant, l'autre source qui peut être très intéressante est celle de Poséidonios d'Apamée aussi, où on a des indications sur la vie quotidienne des Gaulois. Et les druides, actuellement, nous avons toujours cette image de l'enchanteur, du mage, du prêtre. peut-être un peu hérité de l'époque médiévale même.
Bien sûr.
On l'a hérité
de tout le mythe arthurien, etc.
Voilà, arthurien, de Merlin.
Et wagnérien, tout ce qu'on peut imaginer.
Que les druides étaient des prêtres, c'est plus que probable. Ils ont en fait plutôt encadré la religion, mais c'était avant tout des philosophes. Je dirais que c'était avant tout des philosophes qui...
Un peu des aèdes à la grecque. Hein, comme
voilà,
ça.
Tout à fait. Quand le Poséidonios d'Apamée, quand il a voyagé en Gaule aux environs de 100 et 90 avant Jésus-Christ, quand il a vu les druides, il a vu des personnes qui avaient déjà une connaissance immense, qui commençait à traiter de certaines matières d'une façon scientifique, que ça soit l'agronomie, que ça soit le calcul. Il a quand même vu des individus qui avaient cette connaissance qui leur permettait très certainement d'avoir quand même aussi une emprise sur la société gauloise, car il dispensait l'éducation auprès des jeunes élites, principalement.
Quelle différence avec les bardes ?
Alors les bardes avaient une fonction religieuse, mais c'est vrai que les bardes ont eu surtout, à l'époque d'Astérix, donc on va revenir au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est surtout les druides qui ont une place avantageuse dans la société gauloise. Les bardes, en fait, se sont vus décliner dans le temps. Ils ont surtout eu une apogée entre le 5e et le 2e siècle, 3e, 2e siècle, où ils avaient cette fonction religieuse où ils choisissaient par leur chant tous les guerriers qui pouvaient accéder au paradis. Ils faisaient en fin de compte l'éloge des guerriers au travers de leur chant.
Ce qu'il faut toujours garder bien présent à l'esprit, c'est que la langue celte, cette langue des Gaulois, ne s'écrit pas. Donc toute transmission est orale. Nous y venons dans un instant.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois. Et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix.
Faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber. Quand je vous disais qu'on était déjà un peu en vacances, on y est complètement, tout à fait, grâce à Henri Salvador, évidemment, nos ancêtres les Gaulois. C'est ce qu'on apprenait dans tout l'Empire colonial français, et bien toutes les nouvelles populations de l'Empire. C'est donc bien un mythe fondateur que celui des Gaulois. Il ne faut pas l'oublier, ce sont nos racines, après tout, David Louillot.
Oh oui, ce sont nos racines. C'est vrai que l'image que nous avons des Gaulois et qui est un peu beaucoup véhiculée dans Astérix, c'est bien sûr l'image héritée de la Troisième République.
Alors nous étions en train de parler de ces druides et de leurs pratiques. J'étais en train de dire qu'il n'y a pas de langue écrite. On a quand même quelques transcriptions, mais c'est très très complexe. Il y a très peu de choses décrites en celtique.
C'est vrai que même au niveau de l'enseignement que les druides dispensaient à leurs jeunes élèves, l'enseignement était principalement fondé sur la mémoire. Donc les élèves devaient apprendre leurs leçons, les retenir sur aucune base écrite.
Mais quand on fait de l'histoire, même quand on débute, et je pense à tous les étudiants là qui sont en train de finir leur année, qui préparent déjà celle de l'an prochain, on nous apprend que l'histoire, c'est d'abord l'écriture. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'écriture celtique, il n'y a pas d'histoire gauloise, et que l'histoire notamment de la bataille d'Alésia, je me retourne vers Daniel Porte, a forcément été écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire par les Romains en l'occurrence.
Oui, mais César, d'abord, c'est son compagnon Hirtius, ou son lieutenant Hirtius qui le dit, montre un souci d'objectivité absolument unique, déjà. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il est magistrat. Donc, il envoie des rapports au Sénat à peu près à chaque expédition. Il ne faut pas oublier qu'il a des légats, dont le frère de Cicéron, et il communique à peu près tous les jours avec lui. Il a des quantités de gens autour de lui qui seront ses ennemis pendant la guerre civile et qui donc étaient parfaitement objectifs.
Oui, là, ce que vous êtes en train de nous dire, Daniel Porte, c'est qu'en fait, César, s'il avait voulu mentir complètement, aurait eu le plus grand mal parce qu'il était entièrement circonvenu, si je puis dire, et très entouré en tout cas. Bon, mais en dehors même de cet aspect-là, la façon dont il nous décrit les choses est un regard de Romain qui nous parle des choses vues du point de vue essentiellement des Romains. On a le plus grand mal, même s'il fait parfois parler les Gaulois, d'ailleurs ils s'en privent pas, mais enfin quand même, on a le plus grand mal à savoir ce qui se passait du côté des Romains qui se trouvaient à l'intérieur de la ville, je pense là à Vercingétorix et ses troupes, mais aussi du point de vue de l'armée de secours qui est arrivée, dirigée par Commios, dont on, tout ça on ne sait pas grand-chose, puisque évidemment on n'a pas le récit.
Malheureusement, oui. Si on avait les mémoires de Vercingétorix, on serait sauvé. Malheureusement, lui...
Il aurait pu, parce qu'il parlait très bien latin.
Hein. Oui, mais il n'écrivait pas, attention. Les druides, justement, c'est ce que David Louillot vient de dire, interdisaient formellement la mise par écrit de leur science. On se servait du grec pour les communications commerciales, on va dire, les écrits commerciaux. Mais pour le reste, non. Donc on est bien obligé. Alors, de faire avec ce qu'on a.
Je ne veux surtout pas verser dans la celtomanie. Vous savez que c'est l'accusation que l'on porte très facilement envers tous ceux qui s'intéressent d'un peu trop près à ces chers Gaulois. Mais quand même, c'était une civilisation très particulière, qui était une civilisation très spirituelle. Il y avait de l'esprit partout chez les Gaulois.
Oui, il y avait une conception qui serait proche du pythagorisme. On a même dit que Pythagore était venu s'instruire chez les Celtes, ce qui est l'opposé de ce que l'on dit. On dit toujours les druides ont inspiré Pythagore. Eh bien, il y a des écrits qui montrent, justement chez Posidonius d'Apamée, qui montrent que ce sont au contraire les pythagoriciens qui seraient venus demander aux druides des renseignements sur l'au-delà. Il y a cette conception, justement, d'une sorte de métempsychose qui veut que les guerriers...
De réincarnation, en
quelque
sorte.
Oui, de réincarnation. Qui veut que les guerriers s'offrent au combat et s'offrent même à la mort parce qu'ils sont sûrs qu'il y aura un au-delà. Et que dans cet au-delà, ils auront la récompense de leurs efforts.
Vous êtes une spécialiste de la religion romaine, Daniel Porte. Je précise. Qu'est-ce qu'on peut deviner, parce qu'on ne sait pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on peut deviner de la religion celtique ?
On sait déjà par Macrobe que les Gaulois se prétendaient fils de la nuit. Et ça, c'est quand même important parce qu'ils fondaient toute leur civilisation sur ce culte de la nuit, y compris le mépris de la vie humaine. Parce que, suivant eux, on pouvait difficilement admettre que des gens soient sur Terre s'il n'y avait pas le contraire, c'est-à-dire le contre-univers, si l'on peut dire. Alors évidemment qu'au combat, ils ne se ménageaient pas, ils ne ménageaient pas non plus l'adversaire, d'où les fameuses têtes coupées qu'ils offraient dans leur sanctuaire en hommage au dieu de la nuit, monté sur un cercle d'or, dit-on. Et donc il y avait cette sorte de mépris de la vie. Là, en soi.
Oui, enfin, mépris de la vie au sens égotique moderne.
Égotique, oui, bien sûr.
Mais parce qu'au contraire, un respect immense de la vie dans toutes ses manifestations à travers les végétaux, même à travers les minéraux. Enfin, on a l'impression d'une forme d'un peu d'animisme.
C'est de l'animisme, c'est ça. Oui. Carrément de l'animisme, bien entendu.
Et ça, bien sûr, du point de vue des Romains, ça n'était pas non plus à porter au crédit des Gaulois.
Non, eux avaient au contraire une formation plutôt grecque, c'est-à-dire représenter leur dieu sous des formes humaines, alors que les Gaulois, c'est assez célèbre, Brennus qui entre dans un temple de Delphes et qui éclate de rire en disant « mais enfin, ce ne sont pas des dieux, ce sont des hommes ».
Alors, ce qui est très intéressant dans cette inégalité de traitement entre Gaulois et Romains, c'est qu'on la retrouve exactement chez Astérix. C'est ce qui m'a le plus sidéré lorsque j'ai lu votre ouvrage, David Louillot, c'est de constater que si les écarts avec la réalité sont très nombreux du côté des Gaulois, en revanche, Uderzo et Goscinny se sont montrés assez scrupuleux et assez respectueux de la réalité romaine. On y vient dans un instant.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Gaulois sans jamais oser le demander à Astérix, c'est le titre de l'ouvrage que David Louillot vient de faire paraître chez Acropole. On aurait dû d'ailleurs mettre le titre déjà très très long, mais il aurait pu être encore plus long. C'était tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Gaulois et sur les Romains, parce qu'en fait plus de la moitié de l'ouvrage concerne la réalité des Romains, vue également à travers Uderzo et Goscinny. David Louillot.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne peut pas aborder la BD d'Astérix sans parler des Romains, c'est évident. C'est les ennemis réguliers de nos amis gaulois. Je dirais qu'Astérix, pour les Romains, il y a eu aussi beaucoup de lacunes. Parmi les choses qui ne collent pas, par exemple, c'est vrai que l'image de l'armement du légionnaire romain ne correspond pas.
C'est-à-dire que le légionnaire qu'on voit dans Astérix, c'est un légionnaire bien, bien tardif. Hein,
oui, il est plus...
Du temps de la conquête, ils n'étaient pas tous bien en uniforme comme ça.
Non. Ce serait plutôt un légionnaire de l'époque impériale. Donc, c'est vrai qu'après, même l'image que nous avons de César pourrait... Bon, César ne s'endormait pas régulièrement sous sa couronne de laurier. César ne portait pas une cuirasse perpétuellement. Donc, c'est vrai que l'image que nous avons de César, bah, si l'on retient, par exemple, celle de la statue retrouvée dans les Bouches-du-Rhône...
Quand même, on a reconstitué, grâce à cette statue, grâce à cette découverte archéologique, on vient de faire des travaux... Vous savez, c'est la grande mode. On fait de la physiomorphogénie, je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, on a reconstitué le visage de César. Et moi, j'ai été frappé de voir à quel point le visage qui sort ressemble incroyablement au personnage qu'avait dessiné Uderzo, quand même.
Eh bien, il y a un petit truc.
Ah oui, il y a vraiment quelque chose.
Il faut reconnaître qu'il y a un petit truc. Peut-être que le César de la statue est peut-être un peu plus chauve que le César...
Il fait un peu moins vieux, un peu moins angulaire,
voilà.
Un peu plus chauve.
Voilà. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait l'image qu'on a du César d'Astérix. De toute façon, il faut préciser quand même quelque chose, hein, je tiens à le répéter à chaque fois, c'est que Uderzo et Goscinny n'ont jamais prétendu faire un livre d'histoire.
Hein. Ils nous parlent plus des années 60 ou 70 que des années 50 avant Jésus-Christ, hein, ça c'est évident.
Mais ce que je tiens à dire, c'est vrai que c'est Astérix est un bon point de départ quand même, même s'il y a ces erreurs volontaires ou bon, je pense
ça
volontaires.
Ça crée des repères, alors même
ça
si ce
des
sont
repères.
De faux repères, c'est mieux que pas de repères du tout.
Tout
en
à fait.
Sorte, hein.
Et donc c'est vrai que l'objectif de mon livre est justement de relire Astérix différemment, tout en s'amusant, en continuant à s'amuser, parce que c'est quand même l'objectif de cette bande dessinée. Donc, c'est vrai que Uderzo et Goscinny ont déjà réussi à nous faire rire, à nous plonger quand même dans la période proto-historique et la période antique.
Est-ce qu'on peut dire que les personnages qui nous sont présentés dans la bande dessinée sont des deux côtés un peu plus propres qu'en réalité ? Vous nous dites que les légionnaires, par exemple, n'avaient pas ce bel uniforme bien régulier, etc., qu'on trouvera peut-être plus tard sous l'Empire, mais en tout cas pas à l'époque de la République et de la Conquête. Et de même, on nous présente des Gaulois, là, qui sont quand même très propres sur eux. Ils étaient plus hirsutes que ça, ils faisaient davantage peur, en tout cas les guerriers gaulois, non ?
Les guerriers gaulois faisaient très très peur. C'était même des guerriers redoutables et reconnus même dans tout le monde antique. Je citerai d'ailleurs un exemple là-dessus, c'est une bataille comme la bataille de Télamon. Les Gaulois criaient, faisaient résonner les cliquetis d'armes. Ensuite, en plus, résonnait le son du carnix. C'était une espèce de trompette prolongée d'une hure de sanglier dont le son épouvantable ressemblait aux cordes vocales d'Assurance Tourix, par exemple.
On peut dire que les hordes gauloises ne combattaient pas du tout de façon ordonnée, rangée, comme les légions romaines, Daniel Porte.
Absolument pas, non. Au contraire, c'était un élan fou, et un élan d'autant plus, disons, spectaculaire, qu'ils avaient les cheveux chaulés. C'est pour cela qu'on dit toujours qu'ils étaient blonds. En fait, ils étaient blonds, mais avec de la couleur de la chaux. Donc, ils étaient hirsutes avec une tignasse, si l'on peut dire, qui effrayait beaucoup les Romains, puisque quand on parlait de tumultus gallicus chez les Romains, cela voulait dire « attention, voilà les Gaulois ». Donc, on a cette peur du Gaulois qui a perduré depuis...
Le Gaulois hirsute qui surgit comme
absolument.
Ça. On dit qu'ils combattaient nus, les Gaulois ?
En principe, ils ne devaient pas trop combattre nus, sauf les Gésates. Mais ils avaient souvent, enfin on retrouve souvent dans la littérature l'allusion aux Gésates, précisément parce que les Romains étaient totalement étrangers à cette façon de combattre.
Et totalement déboussolés.
Oh, complètement.
On verra peut-être ça bientôt dans votre Vercingétorix, Daniel Porte, puisque vous êtes en train d'écrire un Vercingétorix.
En fait, il est déjà écrit, il est même déjà, disons, en lecture. Je pense que justement, ça va donner un aspect nouveau, puisque Vercingétorix sera évidemment... Un chaud des Crotenay.
Bon, il y aurait encore tellement de choses à dire sur tous ces Romains et surtout sur nos chers Gaulois. Je vous rappelle la date de cette conférence. Ce sera donc vendredi 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, à Champagnole, à l'Oppidum, à 20h30. Nous aurons tout le temps de revenir sur l'ensemble de cette découverte d'André Berthier, dont on célèbre en ce moment les 50 ans. Et je me dis que le moment est venu, Julia, de vous souhaiter de très bonnes vacances. Alors vous allez être là encore un petit moment, moi je m'en vais. Mais...
Voilà, vous partez vous, hein, c'est bien ça. Moi je reste encore sur l'antenne jusqu'au 28 juillet.
D'accord.
Et j'ai été ravie de vous accompagner cette année.
Moi aussi, tout à fait. On se retrouve à la rentrée. Je voudrais assortir ces petits adieux d'un très grand merci à deux personnes essentielles qui font cette émission. Vous savez, en fait, cette émission, c'est un trio. Merci à Lorena Martin et merci à Guillaume Vasseau, car vraiment, ils sont les deuxièmes et troisièmes pieds de cette affaire. Et vous, vous en êtes évidemment le quatrième, Julia.
Oh,
merci
que c'est
beaucoup.
Gentil. Je vous embrasse fort, reposez-vous bien.
On fait un quatuor, en fait.
Écoutez, si ça peut durer un maximum de temps, j'en serais ravie.
Volontiers. Bonnes vacances.
Merci, Franck.